Salut à tous, c'est Romaric, vous êtes dans Graffiti Cinéma. Nous commençons un nouveau thème ce mois-ci, consacré à la psychologie et au cinéma.
C'est magnifique.
Le contexte est tristement marqué par la commémoration des attentats en France, que ce soit Charlie Hebdo ou ceux de Paris, et avec la sortie de films consacrés à la reconstitution fidèle de ces événements, comme Novembre de Cédric Jiménez, on commence cette semaine avec une émission consacrée à la façon de filmer les attentats en France. Cette semaine, pas de film préféré, mais on commence avec une baby critique. C'est Gabin qui vous présente sa revue de film de Black Adam. Bonjour Gabin, donc aujourd'hui tu sors du cinéma et tu vas nous parler d'un film de super-héros qui s'appelle Black Adam. Alors, raconte-nous.
C'est un film d'action, beaucoup d'action, c'est rigolo, c'est bien.
Ça raconte quoi?
Ça raconte l'histoire d'un super-héros... À l'époque, dirais entre nous, à l'Antiquité, un super-héros qui s'était un peu endormi et qui se réveille à notre époque. Et il découvre notre époque.
Il est gentil ou il est méchant ?
Il est gentil, mais au début, il connaît pas notre monde un peu. Et du coup, il est un peu méchant, on dirait.
Est-ce qu'il y a d'autres super-héros dans ce film ?
Oui, il y a la...
Société de justice d'Amérique.
Ah oui.
Et ils sont bien ?
Bah ouais.
Est-ce que tu as un petit clin d'œil à nous faire sur la dernière scène du film ? Attention, spoiler !
On voit Superman qui apparaît.
Superman le vrai ?
Ouais, Superman.
D'accord. Tu conseilles ce film pour les petits, pour les grands ? À partir de quel âge ?
Je dirais... 8 ans.
Okay. Merci Gabin, à bientôt.
À bientôt.
Hé, hey, c'est quoi le texte?
Comment on dit déjà?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir?
Laisse tomber.
Graffiti cinéma.
Graffiti cinéma.
Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma. Ce mois-ci s'ouvre une nouvelle série de 4 nouvelles émissions évoquant la psychologie et le cinéma. 4 émissions parcourant des lignes de force plus ou moins marquées, en tout cas pas toujours autant que notre premier sujet de novembre, filmer les attentats en France au cœur du Pâté Saran qui nous accueille pour cette émission. Et nous enregistrons le samedi 22 octobre, qui voit justement le film Novembre de Cédric Jiménez qui vient de dépasser le million d'entrées, lui qui évoque justement les attentats de Paris. Alors dans deux parties hein, dans cette émission, comme toutes les semaines, filmer les attentats, un frémissement culturel. Plusieurs films ont abordé le trauma collectif en France de ces attentats de Charlie Hebdo aux attentats de Paris. On va en parler, on va étudier cette filmographie. Puis dans une deuxième partie, quelles écoles pour les filmer ensuite? Une question de recherche, évidemment, dans cette façon de procéder qui prendra lieu dans la deuxième partie après la pause musicale. Autour de moi et autour de la table, parce qu'autour de moi ce serait pas très pratique pour enregistrer, l'équipe qui est présente pour cette émission. Bonsoir Thomas qui est avec nous.
Bonsoir Thomas qui est avec nous.
Et toi juste à côté, Loïc qui est avec nous aussi puisque vous êtes cousin.
Bonsoir.
Milan est avec nous également. Et toujours Stéphane à la technique, on remercie très chaudement.
Bonsoir.
Et on n'oublie pas Juliette qui est partie saluer ses enfants, qui sera avec nous pour cette émission. Donc enregistrée au Pâté Saran, on le disait, il y a pas mal de films à l'affiche, de plus en plus en France, qui évoquent les attentats. Et c'est justement tout l'intérêt de les étudier dans notre première partie, à commencer par celui qui est justement l'actualité, qui est toujours présent en salle au moment où on enregistre cette émission. Novembre de Cédric Jiménez, on écoute la bande-annonce de ce film.
Ouais.
Louise est en ligne avec la PP. Reste au bureau et tu regroupes tout le monde.
Il y a une équipe au Stade de France et l'autre dans Paris. Ça a attiré Rubichat au Carillon, rue de la Fontaine au Rouen.
Séverine, tu pars au Stade de France avec ton équipe.
Les terroristes sont entrés au Bataclan, en plein concert.
Première question à 5 millions de dollars. Justement, un film peut-il être bon quand il est obligé d'évoquer l'actualité? Premier tour de table, justement, avant de rentrer dans le vif du sujet et de décortiquer Novembre de Cédric Jiménez. Quand on fait œuvre d'actualité, c'est comme œuvre patrimoniale. Est-ce que c'est justement pas quelque chose de compliqué pour faire du cinéma, de trop cintrer dans un sens?
J'applaudis déjà Novembre qui sort au mois d'octobre. Je trouve que c'est puissant en termes de communication. Voilà. Ça, c'est fait. Merci. Non, mais c'est faut une petite introduction un petit peu rigolote pour.
Bah c'est vrai que le sujet va pas être facile, bah, mais on va parler facile, on va parler de cinématographie.
C'est l'idée que effectivement, quand on s'intéresse, faire un film de fiction sur des événements réels, on peut se poser la question sur cette idée-là, parce que moi, novembre, je l'ai pas vu, mais toi, je sais que tu as vu le film.
Oui.
Et c'est une question que je vais pouvoir justement te poser.
Génial.
Pour le coup. On sait que la faculté de faire un documentaire est bien plus aisée. Ça nous permet de recueillir des témoignages, d'avoir des images d'archives, de trouver un angle qui peut-être est peu abordé. Là, il faut coller à une actualité, à des faits réels, et pourtant trouver une sorte de romanesque là-dedans, ce qui me paraît a priori compliqué, surtout sur des événements ultra récent.
Oui, tout à fait.
Dont le procès s'est terminé il y a 3 mois. Il me semble que c'est au mois de juin-juillet que ça s'est terminé. Il n'y aura pas de nouveau procès, donc ça c'est quelque chose qui est... la partie judiciaire est réglée. Mais le film a quand même été tourné avant. Comment toi, puisque tu l'as vu, et comment tu analyses ça pour le coup ? Est-ce que c'est possible ? Réellement, est-ce que c'est possible de faire un film de fiction sur des événements si récents ?
La question se pose également du cinéaste qui va le faire. Et c'est vrai que Cédric Jiménez, il venait de faire Bac Nord. Donc Bac Nord qui était aussi un fait d'actualité, hein, qui est arrivé à Marseille sur des policiers qui avaient dû jouer avec une taupe pour justement démanteler un trafic de drogue sur Marseille. La hiérarchie n'avait dit qu'ils n'étaient pas dans le deal, ils avaient été enfermés. Donc c'est un fait d'actualité qui existait. Sauf qu'il était beaucoup moins dense, évidemment, que ce que propose Novembre, de tout simplement de plonger au cœur de l'antiterrorisme pendant 5 jours d'enquête après les attentats du 13 novembre. D'ailleurs, on ne voit pas les attentats du 13 novembre, on voit vraiment le travail de fourmi de la police.
Ce que j'allais dire, oui, pour le coup, on n'a pas de on peut le qualifier de tout ce que l'on veut, de barbarie, d'horreur, ces images-là ne sont pas vues.
Là, on voit l'enquête vraiment l'enquête des policiers juste après les attentats. D'ailleurs, on l'entend dans la bande-annonce, ils sont surpris, ils sont dépassés. Ils essaient de rattraper le coche et en 5 jours de trouver des pistes, donc de lancer 500 pistes à la fois pour essayer de trouver justement les terroristes qui sont censés être encore là. Donc, on les voit tous s'organiser. Vous avez donc évidemment la présence de Jean Dujardin qui joue le grand commissaire qui chapeaute tout. On le voit d'ailleurs dans une scène d'ouverture où il loupe le principal meneur des attentats de Paris à quelques minutes sur une intervention en Grèce. Scène d'ouverture que je n'ai pas vraiment compris d'ailleurs, parce que on savait déjà l'issue de toute façon. Donc cette scène-là qui amène un personnage qui n'a pas vraiment le temps de s'installer parce qu'il est 3/4 du temps masqué dans une scène d'ouverture, elle était pour moi un peu déconnectée du reste. Et puis on arrive sur Paris directement, cette fameuse nuit, et tout de suite, hop, la frénésie prend pièce, on est dans du bureau. Alors c'est un film finalement, visuellement, qui peut ressembler à être assez proche de ce qu'avait été fait avec l'affaire Esquin, où il y avait cette enquête sur Guy Georges. On est dans les bureaux, les petites officines, on enquête, c'est pas très spectaculaire, c'est pas forcément un terreau, on va tout courir partout. Et dans un sens, c'est là où je parlais du cinéaste, c'est que Cédric Jiménez, on l'a vu avec Bac Nord, c'est un film, ça court partout. Finalement, on parlait tout à l'heure de la semaine dernière, pardon, de Romain Gavras avec Athéna, où il y avait vraiment une envie d'espace dans ce cinéma-là, de courir partout à tel point de se trouver des terrains de jeu pour faire des plans complètement dingues. Là, pour le 13 novembre, vous n'avez pas les cacahuètes pour le faire, quoi, clairement. On sait très bien ce qui s'est passé. C'était des enquêtes pas très spectaculaires. Il fallait vérifier des adresses, il fallait passer des coups de fil, il fallait regarder des fils Twitter et des fils YouTube. Il fallait regarder des images très provocantes qu'on ne pouvait pas remarquer ni regarder dans un cinéma, puisque sinon, ce ne serait pas accessible à tous et l'exploitation du film serait menacée. Donc dès le départ, en fait, je me dis, mais ayant vu Bac Nord il n'y a pas si longtemps que ça, je me dis que peut-être que Cédric Jiménez n'a pas le bon écran, en tout cas, pour s'amuser, s'amuser cinématographiquement, en tout cas, trouver des idées cinématographiques pour le sujet. Milan, je t'en prie.
Ce qui est dommage et ce qui est, je trouve, plus intéressant, c'est, moi, je me pose toujours la question, pourquoi dans ce type d'affaires, suivre la police, c'est pas si intéressant que ça. Enfin, par exemple, moi, je prends un autre film hein, dont on va, c'est sûr, parler après, mais Made in France de Nicolas Boukrieff, où là, on a le point de vue des terroristes.
Oui.
Et c'est 1000 fois plus intéressant, parce qu'il y a une espèce d'ambiguïté où, en fait, tu te rends compte que les monstres sont des hommes et des raisons qui poussent...
La banalité du mal, non, c'est vrai que c'est...
Et surtout, c'est un film... quand tu prends le point de vue du méchant, tu vas beaucoup plus loin dans le, ce que tu dis de façon philosophique. Parce que Nicolas Boukrieff, si tu choisis de filmer les terroristes, en fait, tu expliques d'où vient le terrorisme. Et Nicolas Boukrieff, il fait ça avec ses personnages dans Made in France. C'est que tu finis à un moment quand même, il y a certains personnages que tu as vraiment en empathie, voire que tu comprends un peu. Cet enfant là qui a vu son petit frère se faire tuer par l'armée française quand il était au Congo, etc. Ce genre de choses, tu vois.
Et c'est aussi évoqué dans des films comme Les Rois du Désert, on essaie de comprendre, même des séries qui ont évoqué les attentats du 11 septembre. Mais c'est vrai que la compréhension n'efface pas l'horreur, évidemment, de ces événements-là.
Ouais, bien sûr.
Non, mais je le précise.
Mais
parce
prendre,
que là,
prendre le.
Ça reste une fiction aussi.
Ah, tout à fait, c'est une fiction, le cinéma.
Le truc que je trouve dommage,
documentaire.
C'est que prendre le point de vue de la police, tu t'oublies quand même. Enfin, tu prends pas vraiment le problème, tu parles pas vraiment du problème en lui-même.
Hein. Bah, ils font leur travail. En voilà,
un des mots-clés du cinéma, c'est action. Et là, justement, le film se constitue sur une réaction. Et moi, c'est ça qui m'a marqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je disais tout à l'heure, peut-être que quand il n'y a pas le terrain de jeu, et je dis terrain de jeu sans aspect péjoratif, c'est qu'il y a besoin de bouger, quoi. Donc, on va créer des scènes qui ne sont pas dans la réalité. C'est-à-dire que cette jeune enquêtrice, incarnée par Anaïs Desmoussiers, elle fait quelque chose qui est absolument interdit chez tout enquêteur. Il y a une piste, elle demande à sa hiérarchie de l'exploiter, comme on le fait pour un policier. La hiérarchie n'a pas le temps, parce qu'évidemment, ils ont 200 pistes à suivre en même temps. Elle a une intuition. Donc, elle prend son scooter et elle suit la piste toute seule, sans renfort, sans rien. Ça fait très longtemps, on sait que c'est totalement hors procédure et que si jamais elle arrête quelqu'un ou qu'elle a une piste comme ça, de toute façon, elle sera mise à la poubelle et que potentiellement, si elle tombe sur un grand terroriste, il sera libéré. Donc de toute façon, on sait même que pour un stagiaire, c'est interdit de procéder comme ça. Le film décide de le faire, mais c'est totalement œuvre de fiction qui ne tient pas la route. Et des scènes comme ça, je vais pas les empiler comme des perles parce que c'est pas l'intérêt.
Surtout, ça tiendrait pas.
Ça tiendrait pas. Mais ces digressions par rapport au réalisme qui est la base de ce film-là, moi, ça m'a marqué. Parce que je me dis, voilà, on est clairement dans l'interprétation que va faire le cinéma. Ils ont eu aussi un carton à la fin du film qui est affiché parce que le fameux contact qui permet de remonter la piste des terroristes qui était hébergée, qui a permis ensuite au GIGN d'intervenir pour neutraliser cette cellule terroriste dormante, donc du coup, après les attentats de Paris, à ce contact-là, son personnage est représenté avec un voile dans le film, alors qu'elle ne le portait pas. Donc elle, qui a changé d'identité, a demandé aux équipes du film de mettre un mot à la fin du film, cette polémique, enfin si on peut appeler ça une polémique, elle met un texte en disant qu'elle, elle n'était pas représentée de cette façon-là, elle ne le portait pas. Donc cette interprétation-là me laisse penser que finalement, toutes les digressions qu'ils ont décidées par rapport à la réalité ne fait que pour moi, et là c'est un avis encore une fois qui n'engage que moi, ne fait qu'illustrer pour le coup, une incapacité scénaristique et, je dirais, filmique à filmer ce travail, justement, à mettre en scène ce travail, comme tu disais, Milan, qui est par définition non spectaculaire.
Et du coup, pour le coup, est-ce que finalement, filmer ce genre d'enquête, un peu comme SK1, pour le coup, pas le qualifier, c'est pas un film vraiment formidable.
Il est plus en salle, on peut y aller.
Non, mais on peut y aller. Mais est-ce que c'est si intéressant que ça de voir cette réaction, parce que finalement comme tu le dis, j'ai l'impression qu'ils agissent que uniquement par réaction, comme nous on a agi au moment où on apprend les nouvelles, on est un peu abasourdi et on se dit on laisse la confiance dans l'État de faire ce qu'il faut pour répondre.
Oui.
Et est-ce que finalement cette réponse le fait de la filmer dans une fiction, est-ce que ça apporte quelque chose de plus que si c'était un documentaire ?
Il y a quelques scènes en fait qu'on va voir qu'on ne verrait pas dans un documentaire, qui est la fameuse reconstitution, de l'intervention. Quand justement il tombe sur cette cellule dormante et on voit tout le travail de l'ombre du GIGN et qui est absolument impressionnant, quoi. Je veux dire, on voit à quel point là ils sont en première ligne, il n'y a absolument aucun filtre. Et cette scène-là, alors je ne vais pas la dévoiler, je ne vais pas la déflorer, mais elle fait des entorses avec le réalisme. C'est-à-dire qu'on va entendre ce qu'on a entendu sur toutes les chaînes info. Donc là, il y a cette part de nous qui l'évoque, parce qu'on a tous, et pour beaucoup malheureusement, parce que je ne sais pas si c'est très bon d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre débat. On a tous vu ces images en boucle et on les reconnaît. Et là, on voit l'envers du décor, qui est tout le rôle du cinéma, hein, c'est de vous montrer un envers du décor qui n'a pas vocation tout le temps à être montré. Et ça passe forcément par une interprétation. Sauf que là, on va avoir quelques entorses. On ne va pas avoir deux corps, par exemple. on va pas voir de choses qu'on aurait pu imaginer voir parce que ça doit être un film qui doit être vu par un maximum de personnes. Et ça va de soi qu'on peut pas voir des images trop violentes non plus. Alors pourquoi je dis ça ? C'est pas une critique en soi, c'est juste qu'à mon avis, Novembre, et c'est pour ça qu'il fait 1 million d'entrées, c'est parce que c'est un film qui va justement permettre, dans un sens, de comprendre et d'évoquer de manière posée, de faire un vrai récapitulatif de tout ce qui a pu se faire. Et en montrant ce travail de l'ombre, en montrant cet envers du décor, eh bien, on arrive à poser, je dirais, de manière concrète, très cartésienne, ce qui a pu se faire. Et c'est peut-être aussi un moyen, une forme de catharsis, en quelque sorte, pour parler, en tout cas, un premier pont pour parler de cet événement. Et moi, je vous propose justement un autre extrait. Juliette, je vous en prie.
Par rapport à ce que tu disais justement sur SK1, est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de délai ? Parce que oui. SK1, le film, c'était quand même longtemps après. Raconter l'histoire, finalement, c'est... effectivement, on prend toujours des libertés, mais voilà. Et c'est très personnel aussi, mais moi, clairement, tous ces films-là qui sortent sur les attentats en ce moment, qu'ils soient... dit fictif mais quand même très inspiré et qui partent quand même vraiment de ça, moi je vais pas les voir parce que je peux pas vous dire, c'est comme si j'avais pas fait mon deuil du truc, je sais pas, mais moi je vais regarder des documentaires sur le sujet. Qu'on va en parler tout, dans pas très bien longtemps sûr. Là je l'ai regardé et c'est 3 heures, mais moi les 3 heures je les bois et je m'en nourris de ces gens.
On va écouter un petit extrait juste après. Milan, juste avant, un autre extrait d'un film qui évoquait des attentats qu'on écoutera juste après.
Ouais,
le sujet est dark, ma voix est partie.
Non, mais la question, en fait, la question du temps, parce que tu parlais de SK1, oui. Le fait que ça arrivait longtemps après, que ce soit un événement récent ou pas, c'est pas forcément le truc qui est le plus important. On le voit par exemple avec, je sors un peu les attentats, mais l'affaire autour de la série Jeffrey Dahmer, absolument horrible, où quand même la famille des victimes n'a pas voulu être représentée et qu'ils ont été représentés, et où c'est hyper stylisé, où Jeffrey Dahmer est limite montré comme... il est hyper stylisé, quoi.
Enfin, ouais, on montre avec beaucoup d'empathie.
On montre avec beaucoup trop d'empathie. Non,
ouais.
Mais avec.
Ah ouais, bien sûr. Ouais.
Il est vraiment montré comme un espèce de héros, un peu dark, un peu anti-héros. Enfin, le mec, c'est Deadpool. Non, c'est un malade mental qui a violé, qui a tué des gamins. Enfin, genre, au bout d'un moment,
c'est une limite dans la présentation des attentats.
Oui, c'est
vraiment
pas qu'une question
l'autre,
de délai aussi, c'est une question de façon de faire.
C'est
mais
la façon, c'est la façon
c'est,
de montrer.
On va dire que c'est peut-être plusieurs facteurs.
L'Assaut, c'est un film d'action donc réalisé par Julien Leclerc et sorti donc en 2011. Il lui revient sur la prise d'otage du vol Air France en 1994, donc, et notamment l'assaut mené par le GIGN. Alors c'était une autre logique de terroriste, c'était pas les mêmes groupes évidemment qui sont responsables des attentats de Paris, c'était le GIA à l'époque. Qui prend donc cet avion d'assaut qui était pour le coup sur le point, potentiellement on craignait qu'il soit utilisé comme une bombe, comme les attentats du 11 septembre le montreront. Et l'assaut raconte donc cette intervention du GIGN dans l'avion qu'on a tous vu également par les images. Et là on va chercher tous les membres du GIGN les uns après les autres. Vous avez Vincent Elbaz donc, qui joue le plus haut gradé de ce groupe là jusqu'à l'intervention finale qu'on a tous vu sur les chaînes info.
C'est ça. C'est ça qui est très étonnant, parce que ces deux films-là, c'est cette idée que ces images-là, on les a vues, finalement. Et on les recrée. Il y a cette idée de recréer aussi des images que l'on a vues. Le gendarme qui tombe du haut du cockpit.
C'est le copilote.
Le copilote.
Qui décide de sortir au moment de l'assaut, de la vitre, et qui saute et qui se démêle.
C'est tout à fait incroyable. Et... J'ai toujours un peu de mal avec ce type de film, dans l'idée de recréer des images que l'on a déjà vues. Alors, on peut dire, oui, alors on n'a pas vu l'intérieur, alors on recrée un angle, ok. Mais au final, ça ne change pas ma perception des choses, de l'événement. Je préfère revoir les images, finalement, que j'ai déjà vues dans un documentaire, avec quelqu'un qui m'explique en me disant... Voilà, le film de fiction lui-même ne me fait pas ressentir... c'est-à-dire que pour moi, c'est des films dont je ne vois pas le propos. Voilà,
c'est important.
C'est dur de dire ça, mais je vois pas le propos, le sous-texte qui est derrière.
Bah, c'était la question que j'avais, parce que moi,
quand je ressors, qu'est-ce que je ressens finalement ? Au final, le film Julien Leclerc, c'est bien, mais j'en ressors pas plus intelligent, pas plus secoué, pas moins secoué qu'avant. Voilà, je me dis, bah ouais, l'IGN est fort. Mais je me le disais déjà en 94 quand on voyait les images et que moi j'avais que 15 ans. Quoi.
Moi, la question que j'avais, c'était justement l'échappatoire de l'action, du cinéma d'action. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas parler de films purement d'action avec évidemment Novembre.
Et oui, parce que ça ne peut pas être divertissant. On voilà. ne peut pas ressortir du film.
Ça ne doit pas être spectaculaire. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une forme de pudeur dans le spectaculaire sur ces films-là. Alors on parle vraiment là pour le coup, hein, ça va sans dire, mais on parle dans le cinéma français. Évidemment, on fera des passerelles avec le cinéma américain. Et c'est justement là où pour Novembre, l'échappatoire, l'action est-elle une facilité ? Évidemment, on ne va pas se permettre de le dire pour ces films-là. Mais pour Novembre, moi, je ressentais à un moment donné, pendant tout le film, et pour l'assaut, ça pouvait se ressentir mais également, ce prisme du cinéma américain qui a toujours été très réactif, le cinéma anglo-saxon, sur l'actualité. On sait que pour le 11 septembre, très rapidement, il y avait des films qui étaient produits, qui sortaient. Et pour Novembre, il y a peut-être... Alors, je n'ai pas vu dans les déclarations, dans les recherches de Cédric Jiménez qui parlait de ce film-là, mais... Pour moi, c'est un fantôme qui est absolument impossible à oublier, qui est Vol 93. Novembre, quand on le voit, on ressent ce qui s'est passé, la désorganisation, la panique qu'on voit dans Vol 93. Et pourquoi, à mes yeux, alors ça n'enlève rien Novembre, hein, le film est en salle, s'il fait des entrées, c'est qu'il a un public et c'est important. Mais pourquoi dans Vol 93, je trouve ça encore plus poignant, bah parce que Paul Greengrass, il n'est pas américain. Et je pense qu'il y a une part de recul qui est très importante dans la représentation de l'événement, qui... Au-delà du style de Cédric Jiménez, le fait que Cédric Jiménez est français comme nous tous et qui fait inconsciemment peut-être œuvre patrimoniale en tout cas. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le sens du film. Pourquoi il est là ? Qu'est-ce qu'il nous apporte ?
Et surtout, ce que tu peux ressentir dans Vol 93, c'est qu'il n'y a aucune image. De cet attentat, rien.
Et on les voit
qu'imaginer quelque chose qui
ça reste du fictif
ça reste du fictif, ouais. Parce que quand on s'en est rendu compte de ça, de ce crash là, ça a été toujours celui qui a été mis de côté.
Parce que voilà, le crash de l'avion 93 raconte les attentats du 11 septembre, mais raconte surtout la rébellion de tous les otages contre les terroristes sur le quatrième avion, celui qui, on le suppose aujourd'hui très fortement, devait tomber sur la Maison Blanche.
Juste par rapport aux États-Unis, comparé à la France, par rapport à la réaction des attentats, la France, elle a une réaction qui est plus documentaire, je trouve. Elle a cette réaction de on va revenir sur les faits, on va essayer de les expliquer. Alors que les États-Unis, ils ont plus une réaction en mode nationalisme, de ouf. Après le 11 septembre,
oui, patriotique,
il faut. Ouais,
vraiment. Non, on va pas avoir des copains avec le nationalisme, c'est assez touchy.
Franchement,
dit patriotique,
des fois, on n'est pas loin. Mais il faut. Allez, hop, on fait exploser le budget, on fait du grand spectacle. On fait Spider-Man 3 où Spider-Man il est derrière un gros drapeau américain, etc.
Moi c'est une proposition, c'est un coup de main que je veux apporter à ta chronique. Je peux faire la trompette des films américains à la fin.
Encore ? Mais tu l'as pas déjà fait.
Je fais hyper bien la trompette.
Non mais voilà.
Cette minute était gênante. C'était pas la partie la plus
plus radiophonique.
Pour les États-Unis, faut aller dans du spectacle patriote, nationaliste de ouf, ou le drapeau américain, vive l'Amérique, tatatitatata. Là où en France, ouais, tatatitatata, je sais, grande analyse. Là où en France, on est plus dans un truc de waouh, on va se poser, on va parler, et c'est là que je me dis, il y a quand même un truc qui est, enfin. Le fait que ça soit Cédric Jiménez qui réalise ce film-là, ça, tu peux te poser des questions quand même, parce qu'on rappelle que Back North, c'est un film qui a été considéré par des journalistes étrangers comme une propagande d'extrême droite. Donc,
j'avais pas vu ça.
T'avais pas vu ça ?
Non,
le journaliste, je sais plus s'il était irlandais, qui avait dit en conférence de presse.
C'est un angle assez sévère, mais bon.
Ouais, et qui avait dit en conférence de presse à Cédric Jiménez que suite parce que c'est un film qui arrive quand même suite au mouvement Black Lives Matter, à tout
bien
ça.
Sûr.
Et qui arrive en pleine période présidentielle en France, et qui avait dit est-ce qu'au final vous faites pas une forme de propagande pour l'extrême droite en
France ? C'est vrai que Cédric Jiménez, par contre, on avait souffert, hein, parce que lui, il disait, il était complètement apolitisé, son film, il ne prenait pas de point de vue. Et on peut faire cet angle-là sur le Novembre, qui représente le travail de la police, qui devient un film patrimonial, en tout cas pour ces groupes-là. Et c'est important de montrer leur travail, c'est important également. Mais oui, par contre, il y a aussi autre chose qui m'échappait juste avant qu'on enchaîne avec le cinéma documentaire, c'est qu'on parlait de l'assaut tout à l'heure, on parlait de Novembre, c'est que le cinéma, inconsciemment, il y avait eu le même problème, et là on peut faire un parallèle avec La Chute, c'est que le cinéma, il est, c'est une machine à créer des héros. Et quand vous voyez des personnages, inconsciemment, on a de l'empathie pour ces personnes-là. Mmh. Et avec La Chute, ça avait une polémique pas possible, parce qu'on se dit, oh, la secrétaire, elle est quand même sympa, elle bosse avec Hitler, ça va pas être facile tous les jours. Enfin, y a, tous les gens sont nazis hein, dans le bunker, hein. C'est pas des gens qui étaient cool. Hein,
c'est ça.
Y a, même le nazi le plus cool du monde, ça reste quand même quelqu'un qui est relativement peu fréquentable en soirée. Mais La Chute avait créé cette polémique-là dans la façon de représenter ces personnages-là. Et là où vaut le 93, à mon avis, et c'est encore une fois très personnel, fonctionnait mieux, c'est qu'il n'y avait absolument pas d'héroïsme là-dessus, parce qu'il n'y avait pas de point de vue. On représentait les terroristes et on représentait les gens de tous les jours qui montaient dans les avions et qui étaient perdus dans les tours de contrôle de la même façon. Alors que dans novembre, forcément, on va y avoir ce point de vue parce qu'on est en première ligne. Et également, il y a tout aussi un savoir-faire qui n'est pas celui du cinéma anglo-saxon en France, parce qu'on le sent, hein, les premiers frémissements dans la façon d'évoquer les attentats, ils sont là, ils sont très présents. On va continuer à en parler évidemment, mais cette fois-ci en parlant de cinéma documentaire. Et moi, je vous propose de la bande annonce, je vais galérer puisque le titre évidemment est en latin, Fluctuat nec mergitur. Bon, c'est la devise de Paris, c'est
tu sais, le latin on sait vraiment pas vraiment le prononcer pour le coup.
En plus,
en plus on sait pas vraiment le prononcer, il y a pas de
Fluctuat nec mergitur.
Non, c'est vrai,
la devise de Paris,
c'est
la devise de Paris, elle vacille mais elle ne tombe pas,
elle ne coule pas.
Elle ne coule pas. On écoute, c'est le film des frères Naudet qui est encore présent sur Netflix.
Nous sommes un vendredi 13. Oui, nous sommes le vendredi 13 novembre 2015.
Le 13 au matin, il faisait bon et j'étais très content.
Les Français jouent bien et le match est plaisant.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche.
J'avais une tradition, et j'ai toujours d'ailleurs, quand je vois un concert de rock,
les camions sont pleins.
C'est que je prends une vidéo et je l'envoie à mon père.
Paris.
Étrangement, je saisis mon téléphone et je vois que mon père m'a envoyé un message. Coucou David, attentat au Stade de France, fais attention.
Édition spéciale.
Fusillade dans le centre de Paris.
Plusieurs explosions ont été entendues.
C'est ce que nous redoutions, c'est-à-dire un commando réparti en plusieurs équipes.
Et je vois un des assaillants avec son arme.
Enfin, c'est autre chose. Ils sont venus flinguer tout le monde. Point.
Alors, on retrouve ce documentaire sur Netflix en 3 heures. Juliette va nous en parler. Donc, c'est la devise de Paris. Je vais retenter. Fluctuat nec mergitur. Voilà. Elle tangue, mais elle ne coule pas. Et là, on prend le prisme du cinéma documentaire. Et ce sont les frères Naudet qui réalisent ce documentaire. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient fait avant? Ils étaient allés enquêter sur une caserne de pompiers aux États-Unis au 11 septembre. Et il s'est avéré qu'ils ont fait le film qui est devenu internationalement reconnu comme documentaire sur le 11 septembre, puisqu'ils ont suivi leur caserne de pompiers qui, du coup, bah, évidemment, intervient parce qu'ils sont en première ligne. Et c'est eux qui réalisent ces fameuses images du premier avion qui était très compliqué, qui n'a quasiment pas été filmé, dans la tour d'or. Alors, ce film-là, justement, moi, la question qui me vient ici, c'est le refuge du documentaire. C'est quelque chose qu'on connaît très très bien, qui est pratiqué dans toutes les cinématographies de France et de Navarre. Mais est-ce que c'est pas finalement quelque chose de facile, d'une spécialité hexagonale pour refuser le cinéma de fiction? On l'a dit tout à l'heure, sur lequel on a quelques réserves, et comme tout le monde, dans la représentation d'événements qui sont connus de tous. Le documentaire, donc vous le retrouvez sur Netflix si vous voulez le voir.
Oui, je l'ai même beaucoup aimé parce que... Enfin, c'est que des témoignages, hein, faut le savoir. C'est pas, on va pas nous montrer les faits, on va pas voir d'images violentes. Voilà, quand on va voir, par exemple, les façades des bars, c'est les façades magnifiées, quoi. Elles sont mises en lumière et tout ça. On va très peu voir d'images choquantes, même pas du tout finalement. Et par contre, ce qui va être choquant, c'est la réalité, parce que c'est les témoins qui partagent avec nous leur vécu. Et moi, ce que j'aime là-dedans, dans ce genre de documentaire, dans ce genre de témoignage, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver dans la fiction. Parce que c'est, par exemple, cette jeune femme qui dit « Je vois le gars débarquer, il est en survette, et moi, ce que je me dis, c'est je ne supporte pas les gars qui sortent en survette de chez eux pour sortir, et je vais me faire dézinguer par un mec en survette. » Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas avoir dans un film.
Il y a du tragicomique.
Parce que voilà, c'est les pensées intimes. Et ça, moi, je trouve ça hyper, hyper imprégnant. Et en plus, dans ce documentaire, ce qui est vraiment touchant, et moi, ce qui me nourrit, c'est l'aspect positif dans tout ça. C'est l'humanité des gens. ils en sortent meurtris mais grandis. Et ils le disent eux-mêmes, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie.
Alors,
et qu'on ne retrouve pas dans les films.
Non, exactement, parce que c'est vrai que ce tragicomique très humain, dans un personnage de fiction, il pourrait choquer, on dirait « Oh là là, c'est pas bien écrit, c'est pas crédible, etc. » Et c'est vrai que cette question peut se poser, mais avec Fluctuate... il y a un gros souci de titre. 13 novembre, ouais. C'est vrai, en plus, il s'appelle aussi 13 novembre. Je sais pas pourquoi je me galère en latin.
Je pense que, ouais, voilà.
Je vais faire du latin.
Dans l'exploitation internationale, le film n'a pas été traduit en, laissé en latin, je pense pas. Voilà. Non, je reviens sur ce que Juliette, tu disais. Ce que j'aime beaucoup dans l'idée du documentaire, c'est que quand il n'y a pas d'image, c'est le témoignage, c'est le récit en lui-même. C'est-à-dire presque c'est les paroles. Des personnes, on n'a pas besoin d'images d'illustration quelque part parce que leur parole est tellement forte que les images pour nous elles sont recréées mentalement et le fait d'imposer une image pourrait nous laisser une seule vision, une seule façon de le faire. Peut-être que toi quand tu regardes le documentaire tu vois des images différentes de ce que je vois, c'est évident, et il y a des moments qui te touchent plus que moi, à des moments où moi je suis touché et toi moins. C'est pour ça que je trouve que la force du documentaire là-dedans, c'est un point très positif pour aborder ces thèmes-là. Je repense par exemple au film de Clint Eastwood l'attentat du Thalys.
15h17 oui.
Voilà, 15h17, j'avais plus le. Voilà. C'est un peu pareil. De cet attentat-là, il n'y a pas d'image.
Non.
Le simple fait que Clint Eastwood en produise, si je vois le film, je ne pourrais qu'avoir que cette représentation-là,
oui.
De l'événement. Donc, c'est dans ce sens-là que je trouve que généralement le documentaire a une force dans ce point-là.
Oui, dans ce point de vue-là. Alors on le conseille très vivement, donc je vais regarder, hein, c'est une exclu Netflix, hein, le film pour l'instant, mais c'est vrai qu'il est
très... Il a été diffusé à la télé.
Oui. TMC, je crois.
Oui,
non, mais là, peut-être qu'ils le rediffuseront
peut-être,
cette année.
Voilà, mais c'est vrai que pour l'instant, vous le retrouvez sur la plateforme au Grand N. Alors Mylène, sur cette première partie, juste avant la pause musicale.
Je vais revenir sur les forces du documentaire, quand tu fais un documentaire sur des sujets aussi durs au final. Alors moi je l'ai pas vu, donc je vais pas parler de celui-là, mais en fait
tu veux pas essayer de dire le titre.
Ah ouais, c'est vrai que c'est dur, c'est super dur,
c'est pour ça que les gens le regardent.
Non mais du coup je vais pas parler de celui-là, mais pour moi aussi une des forces du documentaire, c'est que tu peux expliquer de façon très explicite à ton spectateur les raisons du pourquoi des comment, de comment les choses se passent. Là, tu vois, je pense par exemple à Bowling for Columbine, où en fait, l'attentat de Columbine n'est pas vraiment le documentaire. Hein.
Non,
c'est un prétexte pour parler du problème de la vente d'armes aux États-Unis, pour parler de corruption, etc., etc. Donc, tu peux expliquer vraiment très explicitement à ton spectateur et au final, nourrir le peuple, enfin, les gens de savoir, tu vois. Et moi, je trouve ça... Je m'intéresse beaucoup aux causes des choses, tu vois. Je trouve que c'est ça qui est intéressant, finalement, c'est de comprendre les conséquences, d'où viennent les choses, d'où vient le mal, l'origine du mal. C'est quand même un point hyper intéressant. Et tu peux faire ça par le documentaire beaucoup plus facilement que par la fiction, tu vois. Et dans le documentaire, on le voit bien dans Bowling for Combine, quand il va acheter une assurance où il fait un prêt à la banque, je sais plus.
Il y a
un
fusil à pompe.
Il a un fusil, genre une M16, il sort de la banque, comme ça en une heure, il a une M16.
C'est normal.
Et tout va bien. Mais voilà, tu peux expliquer de façon beaucoup plus explicite les problèmes de notre société, en fait.
J'aimerais juste rebondir une dernière fois sur le documentaire. C'est que donc dans celui qu'on a évoqué, Fluctuate. Celui-là, ça va être un documentaire de témoignage. Il n'y aura pas d'explication. Et par contre, il faut se méfier quand même des tous les documentaires justement d'explication, parce que forcément, il y a le point de vue du réalisateur. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Moi, j'adore ça aussi et j'adore Bowling for Columbine.
Vous écoutez Graffiti Cinéma. On parle de la représentation filmée des attentats en France. Est-ce que c'est un défi insurmontable? En tout cas, on va continuer à se poser cette question-là. Et puis, dans la deuxième partie, on étudiera les façons de faire. Il y a plusieurs films qui les ont évoqués différemment, en filigrane, en toile de fond, directement. Et on va continuer à parler de ces films-là. On enregistre dans le hall du Pâtissard. On se retrouve juste après la pause musicale. À tout de suite. Vous écoutez Graffiti Cinéma, nous sommes dans le hall du Pâté Saran et on parle de la représentation des attentats en France, filmer les attentats justement, quels sont les angles retenus dans la filmographie et le cinéma français. Alors justement, parmi les angles, on va en parler évidemment de ces films-là, on a des extraits à vous proposer et sur les prismes qui sont choisis. J'ai avec moi des bouquins quand même qui sont justement intéressants parce qu'ils sont en première ligne. On peut déjà parler des attentats de Charlie Hebdo parce que là on parle beaucoup des attentats de Paris. Vous avez Philippe Lançon donc, qui est un des blessés graves, des survivants de Charlie Hebdo, qui écrit Le Lambeau. Juliette.
Je veux juste poser une question. Tu es au courant qu'on est à la radio et que les gens ne vont pas voir que tu as amené les bouquins?
Non, mais je les cite parce D'accord. que Philippe Lançon, c'est important. C'est que quand il raconte Le Lambeau, sa reconstruction, sa chirurgie, il a rencontré justement quelqu'un qui voulait faire l'adaptation au cinéma. Et il s'est dit, lui, justement, qu'il refuserait que son bouquin soit adapté. Parce que, comme je les lis en ce moment et que je les ai ramenés, donc le Lambeau de Philippe Lançon, il y a eu énormément de prix. Donc vous le trouvez en folio. C'est un bouquin qui est immanquable. Qui est important. Donc là, il y a une adaptation qui est pas possible. Et Rhys, justement, qui également fait partie des survivants de Charlie Hebdo, lui a écrit 1 minute 49 secondes. Le titre correspond à la durée de l'attaque et des meurtres dans Charlie Hebdo. Vous avez également dans les bouquins, ce bouquin Somme, en fait, l'enquête journalistique qui en général résume tout. Et Soulda, il ne riait plus. Alors là, c'est aux collections Les Arènes. Ils sont 4 auteurs, 4 journalistes à avoir écrit ça les 3 jours où tout a basculé. Et là, on se dit, mais la matière pour un scénario, elle est là, quoi. Le script, il doit partir de là. Sauf qu'à la différence de tout ce qu'on a cité tout à l'heure, y a énormément de choses à raconter. Puis surtout, il y a un pathos incroyable à avoir. Et ça, c'est très, très, très compliqué. On imagine que pour raconter des films comme ça, des événements comme ceux-là, il faudrait passer par ce qu'a fait Paris Brûle-t-il avec la libération de Paris, avec énormément de temps, de production, d'écriture, 15 personnes qui écrivent. Et ça serait très compliqué. Le dernier en date, c'est le dossier V13, justement sur le procès des attentats de Paris, justement ici, qui est édité chez Plomb. Donc, c'est les journalistes et les dessinateurs qui ont représenté les minutes du procès. Et là, également, on peut dire que le cinéma pourrait s'emparer du dossier pour faire un vrai film, un grand film judiciaire, tel qu'on en a connu énormément. Mais là, je vous propose un premier extrait pour voir les angles, justement, qui sont retenus dans le cinéma français. Et on va voir qu'il y en a certains. On va enchaîner deux extraits. Un extrait de Revoir Paris d'Alice Vinocourt qui est sorti cette année en 2022. Puis il y a 4 ans, vous aviez Amanda de Michael Herz qui était sorti, qui eux vont représenter les attentats, mais en toile de fond.
C'est effacé de ma mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé après ?
Le matin, très tôt, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Tu avais été transporté, tu étais blessé, je suis venu te voir. Je suis passé dans la rue du restaurant, il y avait des fleurs.
Alors, Revoir Paris d'Alice Vinocourt, c'est un film qui a très très bien marché, qui a eu un très bon bouche à oreille, et il raconte justement la reconstruction donc, de ce personnage incarné par Virginie Ferrat, qui revient à Paris après avoir subi justement une attaque dans une terrasse. Alors, justement, là on voit toute la reconstruction, qu'il y a un territoire, et on voit comment le cinéma tisse le portrait des victimes, et on va évidemment en parler. Je vous propose un deuxième extrait d'une bande-annonce d'un film qui a un angle très similaire, Amanda de Michael Herz, donc en 2018.
Tu veux pas que je rentre, en fait?
Je garde un peu avec moi.
J'ai fait connaissance avec Amanda et ta sœur hier. Ça doit être quelque chose, hein, d'élever sa gamine comme ça, seule.
Tricheur!
Tous les deux, j'ai tellement peur là.
Alors Amanda raconte justement, on entend la voix de Vincent Lacoste, un frère qui récupère donc la garde de sa nièce parce que sa maman meurt dans des attentats justement où lui il se promenait dans Paris. Et vraiment l'angle similaire avec Revoir Paris, c'est que vous avez des portraits de victimes et les attentats, on les entend, mais on les met vraiment dans une œuvre vraiment psychologique, dans une œuvre de thérapie. C'est pour ça qu'on vraiment les intégrait dans un mois qu'on consacre à la psychologie et cinéma, parce qu'il y a vraiment l'idée ici d'avoir une démarche qui va vous soigner par le cinéma. Et on peut également, Juliette, avant qu'on parle de Revoir Paris, citer En Thérapie, la série d'Arte, qui a des personnages qui évoquent ces attentats de Paris et qui a eu énormément de succès, justement dans cette œuvre-là. Là, pour le coup, c'est un psychiatre qui parle et on a des séances de psy qui sont présentées sous forme d'épisodes. On voit directement ici que le cinéma va faire vraiment effet, je dirais, prophylactique, pour utiliser un mot de 4 syllabes.
En Revoir Paris, c'est que là, on va s'intéresser à la reconstruction de quelqu'un. Et en plus, c'est quelqu'un qui fait tout pour retrouver sa mémoire parce qu'elle s'en souvient pas. Et elle rencontre d'autres victimes qui, elles, se souviennent trop et comprennent pas sa démarche. Donc ça, c'est un angle très intéressant. En plus, je crois que la réalisatrice, son frère, était au Bataclan. Et du coup, elle s'est beaucoup inspirée de son expérience, même si j'avoue que je n'ai pas creusé la question. Je ne sais pas à quel point il a été témoin des choses et à quel point son traumatisme est très grand. Mais pour avoir été du côté de Paris à cette époque-là, moi, je me souviens que pas très longtemps après ça, il y a une fois dans le métro, dans une station, dans un wagon au début, il y a quelqu'un qui a lâché une bombe lacrymo, comme ça, mais pour rien, pour rigoler. Et quand on voit une foule remonter en pleurant et en criant toute une rame de métro vers soi avec nous, on ne sait pas ce qui se passe. Enfin, le traumatisme était grand et au-delà des victimes premièrement touchées. Et c'est, je ne veux pas leur enlever leur douleur, hein, pas du tout, ce n'est pas ça ce que je veux dire, mais c'est qu'on a été traumatisés. Et effectivement, je pense que des films comme ça sont peut-être un petit peu essentiels parce que la reconstruction, elle est collective.
Un angle très intéressant, en tout cas, choisi par le cinéma français pour représenter ces attentats et les évoquer. Maintenant, on va voir qu'il y a eu des films qui, par le hasard des événements et du contexte, ont été clairement précurseur. Et il y en a même un qui en a souffert en grande partie dans sa carrière, c'est Made in France de Nicolas Boukrieff, qui est sorti en 2015. On écoute un morceau de la bande-annonce.
Je m'appelle Sam El Khansouri. Je suis journaliste et j'ai pris le risque il y a 6 mois d'infiltrer les mosquées clandestines de la banlieue parisienne.
Ils se doutent de rien ?
Impossible.
Mais tu comptes arrêter quand ? Tu vas quand même partir avec eux ?
T'inquiète pas, c'est bientôt fini.
On a pour mission de créer une cellule d'Al-Qaïda. Rasez vos barbes, fondez-vous dans la masse, fumez, buvez, défendez l'Amérique et Israël s'il le faut, mais personne ne doit se douter de rien.
Je te suis. Vous savez que maintenant vous êtes complice.
Made in France de Nicolas Boukrieff. Alors, Juliette a fait une fiche sur Made in France parce que c'est un film qui est très rare c'est arrivé très rarement en fait dans l'histoire du cinéma français, qu'un film anticipe des événements, crée une fiction, et il s'avère que ces événements arrivent pendant sa production, même juste au moment de sa sortie. Alors on peut parler vraiment du planning de sortie de Made in France qui a été terrible parce que le film a été mal perçu parce qu'il raconte justement des attentats de 2015.
Je pense qu'il n'a pas été très vu justement malheureusement parce qu'en fait, il a été tourné en 2014, il était prêt pour le début de l'année 2015. Attentat de Charlie Hebdo, janvier 2015. Donc, il décide de repousser sa sortie au 18 novembre 2015. Il commence à poser toutes les affiches le 12 novembre. Le 13 novembre, il y a les attentats.
Bien joué, les gars.
Ouais.
Alors, en termes de promo, c'est pas terrible parce qu'en plus, l'affiche représente une Kalachnikov.
Qui se font avec la Tour Eiffel. C'est une très belle affiche en plus.
Et ce film, donc le sixième de Nicolas Boukrieff, il vous raconte justement l'installation d'une cellule terroriste en France et comment un journaliste vient faire œuvre pour l'infiltrer et directement la raconter. Alors, on le sait qu'il est déprogrammé avec les attentats des attentats de Paris, évidemment, et il a une VOD à partir de 2016, une année plus tard. Alors, ce film-là, il est incroyable. Déjà sa trajectoire, mais également le fond, et puis surtout son cinéaste, Milan.
Ouais, son cinéaste, Nicolas Boukrieff, dont moi je suis très fan. J'en profite d'ailleurs pour conseiller toute la filmographie de Nicolas Boukrieff, notamment Le Convoyeur, qui est un film magnifique.
Et arrive 2015 avec Made in France.
Et oui. Le film s'ouvre du coup sur un panneau qui explique qu'effectivement le film a été tourné avant quelconque attentat. Enfin, tous les attentats, quoi. C'est un film qui a été tourné bien avant. Et du coup, c'est un film qui parle d'attentats avant les attentats. C'est un truc un peu devin, ouais, comme tu peux le dire. Mais c'est un film qui est hyper intéressant parce que dans la sociologie de ces personnages, c'est un film déjà qui choisit le point de vue, du coup, des terroristes, en fait. Terroristes qui sont les terroristes français, qui sont en France. Et on choisit leur point de vue, on choisit de les suivre avec un homme qui est dont le spectateur va se voir en lui,
oui.
Qui est le journaliste qui infiltre cette cellule terroriste.
Incarné par Malik Zidi.
Tout à fait. Et du coup, qui essaye de les comprendre. Et du coup, on vient à certains moments à les comprendre. Et c'est assez terrible. Et ce journaliste va essayer, certains, parce que c'est des gens qui sont très jeunes, hein, ces terroristes-là, ce sont des gens de cité très jeunes. Et il va essayer de leur parler, de les remettre dans plus ou moins le droit chemin. Et au final, il se rend compte que c'est très compliqué, que c'est même voire impossible. Et comme je disais tout à l'heure, t'as ce témoignage d'un des enfants où on lui dit « Mais pourquoi tu veux faire ça ?» qui raconte qu'il a vu son petit frère se faire tuer par un soldat français au Congo, il me semble. Je crois que c'est le Congo, je suis pas sûr.
Surtout qu'il y en a plusieurs des Congos, donc on n'est pas bien là. Mais moi, la question que j'avais par rapport à Made in France, à ces films-là, c'est que finalement, dans le cinéma anglo-saxon, on s'aperçoit qu'on l'a souvent anticipé. Ce qui pouvait se passer, qu'il y a des œuvres de fiction qui ont parfois devancé ce qui pouvait se passer. On peut citer par exemple, alors, un film plus improbable et qui va peut-être faire sourire, on peut citer Ultime Décision, avec le mythique Steven Seagal, qui vous raconte en gros le process des attentats du 11 septembre, bien avant que ça ait réalisé. Ça, je veux dire, on avait déjà ces idées-là. Et il y a peut-être très rares cas en France de films qui ont véritablement anticipé les événements. Et moi, la question que j'avais, c'est est-ce qu'il faut suivre les événements ou est-ce qu'il faut les anticiper dans le cinéma français ?
Bah, l'anticipation. En fait, c'est pas vraiment de l'anticipation parce que on parle d'un groupe qui essaye de faire un attentat. En vrai, l'attentat, je spoil pas le film,
non.
Mais on le voit pas vraiment. Enfin, voilà. En gros, on voit pas vraiment l'attentat et c'est pas le même attentat que ce qui s'est passé en vrai. Donc c'est pas vraiment le fait d'être devant. Mais en soi, c'est quelque chose que beaucoup de sociologues avait dit il y a bien longtemps, pour citer René Dumont qui, avant 2001, dans les années 2000, disait que suite au colonialisme occidental sur l'Afrique, les armes du terrorisme seraient infinies. Je cite René Dumont, qui est mort du coup en 2000, donc il n'a jamais vu sa théorie malheureusement vraie.
Je pense qu'il aurait fait la gueule. Mais...
qui a jamais vu cette théorie sociologique se réaliser en fait. Oui. Et des groupes des cellules terroristes en France, ça existait avant les attentats. Il y a eu des attentats qui ont été déjoués avant ça, etc. Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, hein, c'est que le groupe de terroristes qu'on suit est pas le groupe cliché qu'on peut avoir dans la tête, dans le sens où chaque personnage représente vraiment un type de personne qui pourrait devenir un terroriste. On a un bourgeois blanc, un jeune bourgeois blanc, on a des gamins de cité, on a vraiment des profils qui sont très différents en fait. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est un film qui est garanti sans mépris de classe et sans racisme, quoi. C'est un film où c'est pas les arabes les méchants et c'est mieux.
Bah, évidemment, il y a cet angle-là qui est très important. Alors, où on retrouve maintenant Made in France, on le retrouve sur Canal, Viva et Première Max. Vous le pouvez louer à partir de 3€. Et c'est vrai que pour cette anecdote-là et ce rapport qu'il avait au sujet, il était très important d'en parler aujourd'hui. Alors là, on est évidemment, on a développé sur les films qu'on avait comme toutes les semaines. On aurait pu parler de Paris est une fête de Sylvain Georges, par exemple, qui proposait un angle très différent dans la reconstitution des événements et quasiment quelque chose de périphérique. On aurait pu également parler des films qui font œuvre d'enquête, donc le premier film de Cédric Jiménez, Aux yeux de tous, par exemple, ou Les Cowboys de Thomas Bideguin, où là, vous avez un père de famille qui va retrouver sa fille qui, elle, est partie faire le djihad. Et ces films-là, ils sont tous importants parce qu'ils tissent une grande histoire et avec des angles tous différents, ils racontent vraiment l'envie, en tout cas, du cinéma français de s'emparer de ce sujet et de parler à l'image de novembre de Cédric Jiménez, donc qui fait des très très bons chiffres en salle, de parler de cet événement-là. Alors on va continuer à parler évidemment de psychologie de cinéma, et puis on va se retrouver dans nos dernières parties pour les chroniques des amis, puis un quiz évidemment pour finir cette émission sur la représentation des attentats en France.
Moi, visiteur du futur, qui est président des États-Unis en 1985 ?
Ronald Reagan.
Mais sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal ?
Ouais, c'est pas faux.
La chronique du lendemain, c'est celle de Loïc, l'homme qui voit les films avant qu'ils ne sortent et qui vous font leurs critiques avant même d'avoir besoin de les voir en salle.
Et
qui
oui.
Vous fait, pardon.
Cette semaine de départ de la route du Rhum comme transatlantique, qui verra plus d'une centaine de marins affronter les éléments en solitaire entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. À l'heure où l'économie prend l'eau et les politiques nous mènent en bateau, les catastrophes écologiques nous laissent amers et le prix de l'électricité nous fait mal aux océans. Du rhum, des femmes et du documentaire Nom de Dieu, car oui, en détournant ce titre des Gaillards de Soldat Louis, je vous annonce qu'aujourd'hui, je vous parle d'un film docu. Le documentaire Seul au monde de Édouard Moria raconte l'aventure palpitante de la grande navigatrice Samantha Davis lors du dernier Vendée Globe qui ne s'est pas déroulé comme elle l'aurait souhaité. Ce documentaire raconte l'exploit de s'engager seul sur ses bateaux à moustache. Non, Romaric, rien à voir avec le cigare à moustache. Ce ne sont pas des poils, mais des foils. Et c'est des foils, donc c'est lames de carbone qui fendent les vagues et font voler les monocoques Imoca au-dessus de l'océan. Ainsi, ces extraordinaires machines de course bardées de technologies volent entre mer et vent et parcourent le monde sans pétrole. Avec les navigateurs et navigatrices qui déposent leur vie dans l'océan comme on dépose les clés au concierge et prennent une dimension qui ne nous est pas familière, nous les terriens. De nous à la tombe, il n'est qu'une planche, ainsi parlait Théophile Gautier des marins pendant la tempête. Une force des éléments qui sublime les qualités humaines de ces héros de ces temps modernes. C'est tellement difficile à ceux qui n'ont jamais pris la mer d'éprouver le sentiment du marin qui ne voit rien que l'océan à perte de vue. Cette force des éléments, au-delà de tout ce qu'on éprouve sur Terre, donne aux navigateurs l'indépendance des contraintes ordinaires. François-René de Chateaubriand disait « Entre le monde que l'on quitte et celui que l'on cherche, on a pour amour et pour patrie que l'élément sur lequel on est porté. » Édouard Moria tente de nous inviter sur le bateau Samantha Davis nous partage son destin hors du commun. Et voilà, en voilà une féministe, une vraie, c'est-à-dire de l'intelligence, de la force, de l'abnégation et de l'humanisme, ainsi que du charme naturel des femmes et des hommes qui agissent. Elle arbore un sourire nourri des milliers de sourires des enfants sauvés par le mécénat Initiative Cœur, qui opère les pathologies cardiaques des enfants défavorisés. J'ai eu la chance d'ailleurs de rencontrer Sam Davis en août dernier, et je peux vous témoigner de cette sensation que l'on éprouve lorsqu'on rencontre quelqu'un d'aussi solaire. Alors soyez dans le vent, jetez-vous à l'eau et embarquez avec Sam Davis au cœur de ce documentaire qui rend le monde meilleur.
Ah, grand merci Loïc, hein. Franchement fabuleux. Là, cette chronique est la preuve une nouvelle fois, si besoin est, qu'il vaut mieux citer Chateaubriand que Danny Briand. Et c'est vraiment, ça me fait plaisir. La chronique de Juliette. Alors Juliette, tu avais une chronique justement dans cette émission, oui, qui est très, très importante pour nous, la toute première de ce mois consacré à la psychologie et le cinéma. Et on t'écoute, on trépigne.
Oui, alors ce sera certainement beaucoup moins poétique que Loïc, et j'espère ça va être dur. Mais on va y arriver.
Tu veux qu'on change d'ordre ?
Afin de sortir de l'ambiance pesante du syndrome post-traumatique que nous imposait notre sujet, j'ai voulu explorer d'autres désordres psychologiques, tout aussi tragiques pour ceux qui en souffrent, mais qui chatouillent plus agréablement nos oreilles de néophytes et de grosses raclures nombrilistes, il faut bien se l'avouer. J'ai donc appris, dans mes pérégrinations googliennes, que le Joker pourrait souffrir du syndrome pseudo-bulbaire, qui serait à l'origine de son rire incontrôlable, excessif et interminable. Je tiens cependant à préciser qu'il ne s'agit pas d'un rire sardonique. Ben quoi, oui, sardonique. Là-bas, au Connemara. J'ai oublié de vous dire que j'avais la jargonaphasie. C'est un trouble du langage qui m'impose d'utiliser des mots totalement inventés. Ah, mais ça pourrait être pire avec le syndrome de l'accent étranger. Non, je ne suis pas seule dans ma tête. Heureusement, le cinéma est là pour nous offrir une pléiade de personnages tous plus atteints les uns que les autres. De Jack Torrance dans Shining à Teddy Daniels dans Shutter Island, en passant par Rosemary et son bébé et Nina dans Black Swan, la paranoïa rôde. Vous vous souvenez de The Faculty de Robert Rodriguez ?
Oh la vache,
ouais. Dis donc, on nous prendrait pas un peu pour des jambons ? Cette invasion d'extraterrestres octopusiformes, ça ne serait pas plutôt un délire d'illusion des sosies de Cap Grasse aux en fait ? Et les Men in Black alors ? Un bon gros syndrome de Fregoli, oui. Comme si Vincent D'Onofrio pouvait enfiler un costume d'Edgar. C'est pas Arturo Brachetti, le gars. Le Truman Show a même donné son nom à un syndrome qui donne l'impression aux suppliciés d'être dans une télé-réalité, mais qui, et ça c'est beaucoup plus fun, en présence d'une piscine devient le syndrome de Loana. Peut-être que Les Griffes de la Nuit n'auraient jamais vu le jour si tous les personnages avaient enduré le syndrome de la tête qui explose. Trouble du sommeil qui leur aurait fait entendre une explosion au moment de l'endormissement. Aussi, et à ne pas confondre avec le syndrome de Cotillard qui empêche de bien jouer la mort, il y a le syndrome de Cotard, ou syndrome du mort-vivant. Les patients pensent alors être immortels ou avoir des organes en putréfaction. Et maintenant, c'est le moment des astuces de Juju. Et là, Stéphane, tu peux mettre mon petit jingle.
Les astuces de Juju.
Je vois que ton astuce est aussi longue que la mienne. Maintenant, voyons si tu sais t'en servir.
S'il vous vient l'amphi de gifler Chris Rock pendant les Oscars, plaidez le syndrome de la main étrangère. Comme dans La Famille Adams, votre main mène alors sa propre vie, car cette affection lui provoque des mouvements incontrôlables, comme si quelqu'un en avait pris possession. Vous êtes toujours en retard ? Alors optez pour la dyschronométrie. Tel Néo dans Matrix, vous faites vos mouvements au ralenti. Enfin, si comme moi, vous n'en pouvez plus des titres de films à rallonge, des mots compliqués ou des prénoms impossibles à prononcer correctement dans une chronique, dites que vous avez une hippopotomonstroseschipédaliophobie, 35 lettres, allez, pour indiquer votre peur des mots longs.
Allez.
Quoi, Romaric ? Ton rythme cardiaque s'accélère ? Tu rougis ?
C'est possible.
Tu as des bouffées de chaleur et des vertiges ? Ne cherche plus ! Depuis tout à l'heure, tu me regardes et tu viens d'être frappé par le syndrome de Stendhal. Mais oui, cette maladie psychosomatique provoquée par une exposition aux œuvres d'art.
Ah oui, okay.
Allez, ferme les yeux, ça va passer. Il n'y a pas de quoi devenir tricotylomaniaque.
Oui.
Ah, c'est le fait de manger ses cheveux, ça.
C'est ça.
C'est ça, vraiment.
Enfin, tricotylomanie, c'est
s'arracher
les cheveux.
En passant, le syndrome de Stendhal, super film. Voilà. Je le dis, hein, c'est un super film. Je le conseille.
Le syndrome de Marion Cotillard était très bien.
Il existe, je pense, pas celui-là.
On aura beaucoup de mal à l'avoir dans l'émission du coup.
C'est grillé là.
C'est absolument grillé. Un grand merci en tout cas pour ces chroniques. C'est un moment passé pour cette première émission de notre thème du mois de novembre sur la psychologie et le cinéma. On se retrouve nous la semaine prochaine pour justement une nouvelle émission, parce que les psychologies et le cinéma se déclinent en 4 émissions par l'aide de filmer les attentats en France. Justement pour ce numéro 1. Numéro 2, la semaine prochaine, on se retrouve avec le syndrome de Stockholm au cinéma. Merci les amis. Au revoir à tous. Vous nous retrouvez sur nos plateformes Spotify, Apple Podcast, même sur Amazon Music. Maintenant, on est parti conquérir les GAFAS. Et vous nous retrouvez également sur la page Facebook de l'émission éponyme Graffiti Cinéma. À la semaine prochaine. Salut à tous.
Bisous.
Bisous. Je vous aime.
Fais pas les bisous comme ça. Hein. Fais pas.
Pourquoi vous avez fait chez Graffiti?
Non, pourquoi vous faites ça?
Hein?